Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Dupont le matin.
Bonjour, ici France, pas le pays. Textez mauvais au 25226. Il n'a rien gagné, mais il va finir par comprendre.
En bas, on dira pas vite.
FM 93, Dupont le matin.
On est de retour dans Dupont le matin, comme on le fait pratiquement tous les jeudis. On va faire un petit tour dans les avis de décès. J'ai beaucoup de choses ce matin dont j'ai peu de notes. Là. Fait que c'est des choses que j'apprends à travers les branches, des décès qui touchent des gens. Hier, j'ai parlé avec mon chum Steph Sanson, qui est directeur général chez Couvre-Plancher Gagné. Il est le conjoint de Sonia Carrier. Ils ont perdu sa belle-mère cette semaine, Céline Carrier, femme du fondateur du marché Carrier, Philippe Carrier. Donc, Madame Carrier est décédée cette semaine. Nos condoléances. La famille Carrier, elle est immense dans le secteur. Tout le monde a des liens avec la famille Carrier de Pintendre. Puis le marché Carrier avait été fondé donc à l'endroit où il est toujours à Pintendre. C'est là que ça avait que la boucherie avait vu le jour il y a de cela une éternité. Mmh. Je dirais plus de 50 ans. Il me semble que c'est 69 l'année de fondation.
Fait que Philippe Carrier, lui, il est plus avec nous.
Non, il est décédé, ça fait une dizaine, 12 ans à peu près.
C'est ça ma question, OK.
Ouais, M. Carrier, c'était le boucher. C'était une boucherie à l'époque, c'était la boucherie Philippe Carrier. Ouais. Puis quand les enfants ont commencé à se greffer à la boucherie, mais là, c'était une boucherie de dépanneur. Fait que là, on allait chercher de la bière, là, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils ont commencé à vendre des cossins, des tapes à cassettes, tu sais, des tapes à cassettes qu'on traînait partout, puis différentes affaires. Puis puis ils ont commencé à préparer des mets. Puis là, tu sais, il y a eu une évolution graduelle, mais quand même assez rapide, à un certain moment donné, où la boucherie est restée au cœur du commerce, mais où l'éventail de produits a varié à un point tel où il n'y a plus de bière. Il y a du vin, par contre.
Il n'y a plus de tape cassette non plus, ça a l'air.
Non, plus de tape cassette non plus. Puis, tu sais, on dépanne les gens, mettons, les chips, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Là. Alors qu'on a un dépanneur, les rangées de chips, c'est à perte de vue. C'était pas ça. Alors, Mme Céline Carrier, qui a habité pendant des années au-dessus du marché Carrier, est décédée au cours des derniers jours. J'ai pas de date encore pour les funérailles et tout ça, je vous en parlerai. Tout comme aussi, on nous a fait parvenir tout à l'heure, j'ai pas trouvé l'avis de décès, là, mais j'ai pas fouillé parce que souvent, vous comprenez que quand on parle des décès, c'est que les funérailles sont le week-end suivant. C'est comme là, on me dit, un homme qui a beaucoup donné à sa communauté, qui s'est battu pour améliorer son quartier, qui fut fort apprécié de tous, un homme qui a donné à son prochain tout au long de sa vie. Il a été conseiller municipal à la Ville de Québec pendant 12 ans, M. Gaston Bisson. 91 ans et décédé lundi. Donc, j'imagine que les funérailles seront dans quelques semaines. Souvent, c'est de trouver le bon moment pour ça. Aussi, un autre avis de décès. J'ai pas l'avis de décès parce que c'est très, très récent, mais c'est parce que moi, ça touche une tonne de monde que je connais. Une jeune femme dans la quarantaine, Annie Ouellette, est décédée. C'est elle qu'on a retrouvé le corps à la baie Gingras, à l'Anse-Gingras, pardon, le long du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Saint-Romuald. Ça, c'était en début de semaine. Alors, mes condoléances à la famille, à son conjoint,
François
Guy Thivierge, donc, et à tous ses amis. Là, on a plusieurs amis en commun. Moi, je la connaissais pas, mais on a une tonne d'amis en commun. Aussi, dans les avis de décès, ben, on nous a écrit cette semaine Josapha Terrien, 101 ans et 4 mois, originaire de Saint-Damien, mais était propriétaire de la beurrie à la Quai de Chemin. C'était le doyen de la Quai de Chemin. Ben, là, lui, il est décédé au cours des derniers jours. Il y a Madame Cécile Boivin, 102 ans de Québec, qui aussi est décédée. Et à Saint-Émile, Madame Rita Allison, 101 ans. Alors, nos condoléances à toutes les familles. Les jeunes, c'est ça. Là, ça c'est évidemment tout le temps la partie la plus difficile. J'ai vu la photo là, de Madame Julie Bureau. Elle était de Laurier Station, infirmière, mère de deux filles, âgée de 49 ans. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle est décédée. Donc, et c'est ses funérailles ce week-end. C'est ça, 30 mars. Donc, c'est ce week-end à compter de midi. Ça se passe à Saint-Apollinaire. Alors, mes condoléances à toute la famille. C'est triste, épouvantable. Ghislain Chamberlain, lui, 64 ans, de Saint-Raphaël. François Marié, 44 ans, de Sainte-Louise. C'est où Sainte-Louise, donc? C'est près de Rimouski, ça, si je me trompe pas. Ou en tout cas, dans ce secteur-là, je suis pas certain. Et André Turmel, 59 ans seulement et 11 mois. Lui, il était de Saint-Damien. Alors, prendre le temps de jeter un petit coup d'œil dans les avis de décès ou encore de suivre vos médias sociaux pour les avis de décès. Voilà, c'est fait. En ce jeudi, mes condoléances à toutes les familles éplorées. On est dans le segment « Embarque, on ira pas vite ». Alors, tout le monde a une petite nouvelle à partager avec vous, de laquelle on va commenter. Pierre, on commence avec toi.
Oui, d'abord, on a retrouvé deux corps d'ouvriers disparus là à Baltimore. On a réussi à retrouver, c'est des plongeurs qui ont localisé une camionnette rouge, un peu plus de 7 mètres en profondeur. Deux hommes de 35 et 26 ans qui faisaient partie de l'équipe d'ouvriers, donc qui étaient de ce côté-là. Puis là, maintenant, ben, on doit dégager les débris là, parce qu'on a réussi à localiser d'autres véhicules, mais on n'est pas en mesure de les atteindre en raison des débris qui sont dans l'eau actuellement. Maintenant, il y a eu une poursuite policière majeure hier ici à Québec. Ça a commencé dans le secteur de Beauport. Ça s'est terminé dans le secteur de Portneuf. Ça n'aurait pas été à haute vitesse tout au long de la poursuite, mais il y a un segment de la poursuite, le dernier, dans l'ouest de la ville, à partir de du secteur Sainte-Foy, disons jusqu'à Portneuf, où il semble que ce se soit déroulé à très haute vitesse. Il y a des images qui circulent un peu partout. En après-midi, c'est un individu qu'on dit...
Fin d'après-midi. Ouais. Je pense qu'il était 17h45.
Lorsqu'on l'a arrêté, effectivement.
Non, quand on l'a arrêté, il était 19h. Qu'on m'a dit, donc
Mais ça a commencé à 16h30, puis ça se serait terminé vers 17h30, selon ce que j'ai. Il aurait été menotté à 17h30. De toute façon, écoute, c'est un individu en crise. Là, on a très peu de détails pour l'instant.
Moi, je n'ai des détails. Pas mal, à part ça.
Vas-y.
Fait que, le nom de la rue que j'ai oublié, là, hier, je commençais à prendre des notes.
C'est
Saint-Samuel. OK. Les polices sont appelées là. Ils savent un petit peu où ils s'en vont. De là à dire qu'il y avait eu plusieurs appels, je le sais pas. C'est un homme en crise et c'est un cas de violence conjugale non armée. OK? Donc, la police arrive là. Quand il voit la police arriver, évidemment, il est en crise. Fait qu'il saute dans son troc. Puis, il est prêt à foncer dans la police. Il veut tout simplement s'en aller de là.
Ouais.
Mais il habite là. Fait que on sait c'est qui. On sait son adresse. On a sa plaque. Puis on a son char. Puis on sait qu'il est pas armé. Fait que là, la police part derrière. On m'a toujours dit, surtout avec la modernisation des services de police, que c'était pour la prise de décision d'une poursuite, c'était jamais quelqu'un d'impliqué dans la poursuite qui prenait la décision. Ça, je sais pas si, j'espère que je m'explique bien, là.
Ouais.
Donc, il y a des patrouilleurs qui courent après quelqu'un. Il doit contacter, j'allais dire, un sergent, un superviseur, appelez-le comme vous voulez, mais quelqu'un qui est dans un bureau, qui est en charge des patrouilleurs sur le terrain, et qui, lui, plus froidement, assis derrière le bureau, selon ce qu'il a comme information, va dire, OK, on interrompt la poursuite, on sait c'est qui, ne mettons pas en danger la vie d'autrui.
Ouais.
OK? Parce que là, ce gars-là, on le poursuit, on traverse Charest au grand complet, pis là... Tu sais, on dit pas de haute vitesse en ville, c'est faux. Puis là, encore là, ce que moi je déduis de ce qui se passe là, et c'est ma perception à moi et qu'à moi, c'est qu'on nous dit pas tout à la police de Québec. Comme on nous a rien dit la semaine passée quand le bébé de 14 mois est décédé dans une garderie. Ils l'ont pas dit à personne. Puis il y a du monde qui se sont rendus sur les lieux pour savoir qu'est-ce qui se passait, puis ils ont rien dit. Là, il va falloir à un moment donné que les communications et la police et M. Turcotte lui-même peut-être s'expliquent. Donc, pensez-vous que le gars, il arrêtait ses lumières rouges sur Charest hier, en fin de journée? Non, il arrêtait pas, là. OK? Il y avait 15 chars de police qui étaient à sa poursuite. 15. Est-ce que c'est pas un peu exagéré pour un homme en crise, mais non armé, qui, s'il n'est pas pourchassé, va assurément diminuer sa vitesse? Mais on a tellement continué que rendu à la hauteur de l'autoroute, que Charest devient l'autoroute qu'on connaît, qui devient la 40, là, ben, le gars se sentait, évidemment, il voit les 15 chars de police en arrière de lui. Puis là, il voit qu'il est un peu pris dans le trafic. On est à l'heure de pointe, ou en fin d'heure de pointe, en sortant de la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pris le bypass, puis il a changé de bord. Il s'en allait. Mais Chris, ils l'ont suivi. J'en reviens pas. Moi, je vous le dis, là, je suis pour qu'on arrête les gens, puis qu'on ait des motifs. Là, il y avait des motifs raisonnables, il y avait un cas de violence conjugale. Mais la police, ils ont embarqué en arrière. Puis ils sont partis. Puis là, je vous dis ça, puis est-ce qu'ils vont confirmer? Non. Est-ce qu'ils vont désavouer d'une certaine façon, peut-être? Mais il y a des témoins, là, c'est parce que pensez pas qu'il y a personne qui vous a vu.
On a des images là du véhicule qui retransfère du bon côté parce qu'on le voit arriver full pin et il fait face à un barrage de véhicules, notamment des policiers, traverse et dans le terre-plein, il fait son changement de voie. C'est sur le journal dans le journal de Québec, on a les images là.
Exact. Ouais. Et là, il va faire ça deux fois, je pense, revenir en sens inverse. Et mais là, le nombre de fois, je suis pas certain, mais c'est pas important. Et c'est d'ailleurs pour retourner dans la bonne voie où le camion va s'enliser. Et le gars va débarquer puis là, il va tenter de partir à courir, mais les policiers vont le rattraper rapidement puis ils vont le menotter. Mais encore là, il était pas armé. On me dit, moi, que la police le savait qu'il était pas armé. Puis en même temps, c'est difficile pour nous d'avoir de dire, là, bon, on a des images, mais vous savez que les communications lors d'un événement comme ça, maintenant, avec la police, il y a plus personne, c'est crypté. Personne ne peut entendre et savoir qu'est-ce qui se passe.
Fait
que
là, sur les scanners de police, tu veux
dire? Ça marche plus, ouais, ouais, c'est ça. Souvent, on va entendre le call initial. Il se passe quelque chose sur la rue à Beauport, mais on n'en saura pas plus.
Okay.
Fait que moi, les gens qui ont suivi ça hier me disent, écoute, vraiment, on aurait dû, sur Charest, arrêter cette poursuite-là. On savait c'était qui. On pense qu'il allait assurément diminuer sa vitesse, puis assurément peut-être se calmer. On savait c'était qui, là. On va le retrouver tantôt, là. OK? On savait peut-être même où il s'en allait. Tu comprends? Fait que, est-ce que, à cette heure-là, ça méritait de rouler au-dessus de 150 km/h en sens inverse sur l'autoroute?
La réponse est non.
Ben, je pense que c'est non. Mais là, la police de Québec, puis je le sais qu'ils écoutent, là. Et là, m'appellerez, puis parlez-vous, puis arrêtez de jouer à l'autruche, là, puis dites-nous les vraies affaires. Ne pas me dire, ah, c'est sous enquête, on parlera pas, avec de la merde, là. Tu sais, à un moment donné, c'est la sécurité du monde, puis d'où ça vient, ça, semble-t-il qu'il y a une rivalité, puis je suis pas là-dedans, moi, j'appelle pas la police, puis je veux pas nuire au travail de Karen, mais semble-t-il que, m'a dit une affaire, il faut quasiment qu'il y ait une bombe qui explose pour qu'ils disent, ah oui, c'est passé quelque chose, sinon ils disent rien. S'il y avait personne qui suit tous les cadres de la police, il y a bien des cadres qu'on serait pas mis au courant. Fait que c'est assez particulier comme situation, encore une fois, hier.
Plusieurs arrestations en lien avec le crime organisé également hier, une quinzaine au total, dont Mario Auger, surnommé Banane, Marc Roberge, surnommé Marco. On dit que c'est des têtes dirigeantes ici à Québec, effectivement. Des arrestations, oui, qui se sont déroulées à Stoneham, à Saint-Étienne-des-Grès, ça c'est pas très loin de Trois-Rivières, à Québec, La Pocatière, Sainte-Brigitte-de-Laval, Saint-Réferiol-les-Neiges, Vallée-Jonction et Saint-Bernard. Et dans tous les cas où à peu près on parle d'accusations de gangstérisme, de complot, de trafic de stupéfiants, la plupart des gens ont été remis en liberté, sauf les personnes que je vous ai mentionnées tout à l'heure et Christian Boucher, dont on a parlé hier matin. Tout ce monde-là va être de retour en cours en avril. C'est 70 policiers qui ont été mobilisés pour cette intervention-là. La police nous dit que ça n'a pas de lien direct avec la guerre que se livrent les Hells Angels et la Blood Family Mafia. Tout ça avec le contrôle des stupéfiants ici dans la région de Québec.
OK.
Maintenant,
on va en reparler dans à peu près une demi-heure. Pierre Sanson, enquêteur des crimes à la Sûreté du Québec, à la retraite, sera avec nous en studio. Puis on lui reparlera des poursuites policières également qui se produisent.
Juste pour revenir sur la poursuite policière d'hier, le mot m'indique que les communications de la police ont appelé au 93 pour la poursuite policière.
Pour leur dire? Ouais. OK. Mais pour prévenir les gens de se tasser ou?
Je sais pas c'était quoi la nature exacte de l'appel, là, mais on a prévenu les médias.
OK. Mais tu sais, moi, c'est pas de prévenir. C'est, là, mon questionnement, c'était de dire pourquoi ils ont continué. C'était ça hier. Tu sais, j'ai parlé à des gens qui étaient impliqués dans ça puis qui comprenaient pas pourquoi ça a dégénéré comme ça. Il y a quelqu'un qui me dit, ah, il était peut-être armé, mais je repense à ça, même s'il était armé, c'était contre lui-même qui est, tu sais, je trouve qu'on a mis la vie de beaucoup de monde en danger pour ça, pour une situation comme celle-là, mais, tu sais, en même temps, sont toujours, la chaise est toujours libre. Il y a une chaise à côté de Nico, là, puis il y a des muffins, puis il est toujours libre. Si quelqu'un veut venir nous expliquer peut-être des choses qu'on comprend pas dans le monde de la police.
Ouais, les techniques d'enquête, là.
Ouais, ben, les techniques de poursuite, surtout.
Tu te souviendras peut-être qu'en août 2022, on avait retrouvé le corps d'un jeune homme de 20 ans, Ashraf Timoumi, du côté de Stoneham. Et on avait retrouvé son corps dans un véhicule. Il avait été assassiné. On a procédé à l'arrestation de deux personnes dans ce dossier-là. Et hier, Kevin Prévost-Bouchard a plaidé coupable. Et là, c'est prison à vie. La première accusation, c'était meurtre premier. Finalement, on a descendu ça à meurtre deuxième pour obtenir l'aveu de culpabilité. Puis ce qu'on dit, c'est que son dessein meurtrier s'est précisé lorsqu'il est débarqué de sa voiture. La raison pourquoi il l'a assassiné, 6 balles en passant, hein, à travers la vitre de la voiture, c'est la drogue. Donc, il y avait de la drogue dans le coffre de la voiture, devait faire une passe tout simplement l'un à l'autre, sauf qu'il a décidé qu'il ne payait pas, qu'il le tirait, qu'il partait avec la drogue. Alors voilà, pour ce qui est de la libération conditionnelle potentielle, ce serait après 17 ans la demande. C'est une proposition conjointe de la poursuite et de la défense dans ce dossier-là. Prévost-Bouchard, c'est un gars du Lac-Saint-Jean. Maintenant, il n'était pas tout seul, je te le disais dans cette histoire-là. Le présumé complice s'appelle Éric Guénette de Normandin au Lac-Saint-Jean. Lui, il est toujours en attente de son procès dans cette affaire.
T'es accusé de quoi, lui?
Écoute, ça, c'est une bonne question. Je vais te retrouver la nature exacte des accusations, mais c'est probablement complicité après les faits. Mais je te reviens avec ça.
Mais pourquoi on avait besoin d'un aveu de culpabilité? Pourquoi on a plié? Je dis pas s'il avait tiré un coup, il a tiré 6.
Ouais.
Donc, il a vidé le gun. Ou en tout cas, et j'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi la couronne est allée. Tu sais, dans 17 ans, ce gars-là a fait peut-être un petit peu de temps préventif. Assurément. C'est arrivé quand, ça, cet événement-là?
L'automne 2022.
2022, on est ouais. En 2024. Donc, a fait peut-être un an et demi en prévention, donc ça va compter double.
Je vais te lire la phrase. Le procureur de la poursuite a expliqué que l'intention de tuer de Prévost-Bouchard s'est cristallisée lorsqu'il est sorti du véhicule. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'était pas capable de prouver l'intention initiale, puis qu'ils se sont rabattus sur une culpabilité au deuxième degré. Mais c'est notre lecture, là, on n'est pas dans le dossier.
D'accord.
Mais ta question est bonne. Mm-hmm. Puis je termine avec le droit de la famille, parce que le Québec va introduire un nouveau régime d'union parentale. On parle ici du projet de loi 56. Grosso modo, c'est qu'on va encadrer les droits et les obligations des conjoints de fait avec enfants, notamment en cas de séparation. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de couples qui vivent en union libre, beaucoup d'enfants qui naissent sous des unions libres, et le Code civil du Québec va être modifié. Et ça, c'est un peu inspiré de l'histoire Éric contre Lola. Il y avait eu poursuite début première moitié de 2010, mm-hmm. ou à peu près. Là, des années 2010, puis c'était une question de maintenir le rythme de vie, des enfants, mais aussi de l'ex-conjointe et tout ça. Là, on balise pour les enfants et non pour les anciens conjoints.
C'est quelle année on a fait la dernière modification à cette loi-là?
1980, je pense.
1980, ça fait longtemps. J'entendais une avocate spécialisée en droit familial qui disait, ça fait 41 ans que je pratique, puis j'étais à l'université la dernière fois qu'ils ont modifié cette loi-là. J'espère qu'on a bien consulté justement des gens qui, vous savez, dans les bureaux d'avocats, il y a des spécialistes de droits familiaux. Mm-hmm. Et j'espère qu'on a consulté une grande majorité de ces spécialistes-là, de ces avocats-là qui ont des problèmes et qu'est-ce qui les empêche des fois de régler. Parce que vous savez que il y a des avocats et des notaires qui sont mandatés pour faire de la médiation dans des séparations de conjoints de fait, là, si on veut. Et il y a 6 séances gratuites qui vous sont offertes. Puis même, c'est 6 séances par année. Dans le sens, j'espère que je me trompe pas, là.
Des fois, il faut renégocier l'entente avec les
ouais,
la vie
ça.
Qui change. Là,
c'est
ouais.
ça. Fait que c'est 6 séances. Puis même que, ça, je sais pas si c'est légal, mais mettons, il y a des avocats ou notaires qui vont offrir, parce que là, tu as besoin d'une entente écrite. Ça est pas couverte, elle. Ça coûte, mettons, 200$ ou plus que ça, je me souviens pas du prix, là, pour avoir une entente écrite du deal qu'on fait, là. Moi, je paye ça, toi, tu payes ça. On échange. À Noël, les enfants sont avec moi, au jour de l'an, sont avec toi. Tu sais, comme nous autres, des fois, il y a quand même des schémas qui sont déjà préétablis. Mettons, le gars va s'occuper des cheveux, des dents, La femme va s'occuper des vêtements. Si vous êtes d'accord avec ça, ça peut représenter des dépenses similaires. En tout cas, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires comme ça. Il y a l'équité de niveau de vie. Ça, c'est le point majeur. L'équité de niveau de vie, c'est très difficile à établir. Ça veut dire qu'il faut que si un conjoint est capable d'emmener ses enfants souper au Château Frontenac à toutes les semaines, il faut que madame soit aussi capable. C'est ça l'équité de niveau de vie. Fait que c'est très difficile à mettre en perspective et à évaluer.
Pour les enfants seulement et non pour elle, hein, c'est ça.
Fait que c'est
ça,
juste pour les enfants.
C'est la nuance qu'il faut apporter. Puis les gens qui veulent se soustraire au nouveau régime, c'est aussi possible de le faire, mais ça prend une entente notariée, comme tu l'expliquais pour.
C'est ça. Bien, je voulais dire que les notaires ou les avocats, des fois, tu sais, il y a des couples qui se séparent, ils n'ont pas besoin de 6 rencontres. Puis donc, tu vas faire 3 ou 4 rencontres. Et les deux dernières rencontres, ils vont te les. C'est ça, je peux pas. Je sais pas trop comment ça marche, mais dans le sens où ils vont te les échanger contre ton document officiel.
Un crédit.
Fait qu'au lieu de ouais, c'est ça.
T'as le crédit.
Mais il facture le gouvernement pour ces deux rencontres-là, tu comprends? Ouais. Il dit, mettons, la facture des 6 rencontres, ça vaut tant. Tu n'as pris 4, il te reste tant d'argent. Tu vas payer ce qui manque. Moi, j'avais payé ce qui manquait pour les documents puis que tout soit réglé et uniforme. Fait que ça avait pas pris beaucoup de rencontres.
On crédite la commande.
C'est ça. Fait que ça peut ça aide bien des gens parce que tu sais divorcer sans cette aide là, c'est des dizaines de milliers de dollars là, de frais d'avocat. C'est cher en joie le vert.
On calcule puis
ben
oui.
Ceux qui chicanent là, ils chicanent solide. Ça coûte. Ça me fait penser au jeu télévisé à nouveau, là, à Julie Snyder.
Chaque
là.
Seconde compte.
Chaque seconde compte. Ça me fait penser à ça. Non, mais c'est vrai.
C'est que plus tu t'obstines, plus le montant descend.
Là. Ben oui.
Ben là, plus ça monte, la facture monte.
Tu chicanes, puis la facture monte, fait que tes avoirs descendent. Tu peux arriver avec 2 personnes à zéro, là.
Ben oui.
T'sais,
puis des fois, ça chicane pour un vidéo, là.
Oui. Je pense qu'il devrait changer le nom de ce jeu télévisé-là. Chaque seconde compte, il devrait appeler ça divorce ou séparation des biens. T'sais, surtout que ce jeu-là, à la toute fin, le montant qui reste, tu sais, cette semaine, c'était quand même plusieurs milliers de dollars. Là.
Ben non, c'était 3 000 piastres.
C'était 3 000?
Ouais, ben oui, celle qui a gagné le plus, elle a même pas eu 1 000 piastres.
Ah ouais, OK. Je l'ai écouté, mais je me suis vague.
Mais je pense que moi, j'ai pas écouté le début, j'ai juste écouté la fin. Mais je pense qu'ils ont bien joué, mais à la fin, il restait pas une grosse cagnotte. Là.
OK. Parce que quand tu fais une erreur, mettons, ils ont monté au-dessus de 20 000 à un moment donné, là. Mais quand tu fais une erreur, tu perds la moitié de tes gains. Fait que ça descend vite. Fait que puis après ça, faut que tu chicanes, savoir
si tu réponds pas, est-ce que tu perds des points?
Oui, c'est comme si tu as perdu, tu perds la moitié de tes gains. Fait que il y a des affaires
que faut que tu t'entendes, là, faut que tout le monde soit d'accord sur la réponse.
Ouais, c'est ça.
Ça doit pas payer beaucoup. Un autre jeu questionnaire qui paye pas beaucoup.
Ah, ça paye pas beaucoup.
Mais c'est intéressant de voir les gens agir.
Oui.
Parce que c'est très individualiste, là.
Hey, on est 4, on s'était jamais vu, puis à peu près, je dirais, 25-30 minutes après que ce soit commencé, il faut qu'on élimine un de nous 4, qu'on en mette un dehors qui nous aide pas à bien répondre aux questions, par exemple.
Si on se connaît,
c'est
pas.
C'est beau.
Hein?
Moi, c'est décidé.
C'est décidé, c'est ça. Puis il faut qu'on soit les 3 unanimes. Pas les 4, parce qu'il y en a un qui veut pas se mettre dehors lui-même. Fait que, puis après ça, ben à la fin, qui va ramasser 60% de la cagnotte? Qui
ça
va
aussi,
ramasser 30, puis qui va ramasser 10? Fait que.
Ici, c'est déjà décidé, là.
C'est moi qui ai 60? Mais oui. Je réponds à toutes les questions.
Mm. Non, tu poses des questions, toi.
Ah oui!
Tu réponds rarement.
Ah oui, OK. Ray, ta nouvelle, parle-moi de ça, j'ai hâte d'entendre ça.
Ben, Shohei Ohtani, cette semaine, il a fait un point de presse. Puis la plupart des gens experts en la matière, en relations publiques, ont dit que c'était une catastrophe, le point de presse de Shohei Ohtani, je seconde. Et ça avait pas d'allure, la façon de faire ça, avec les Dodgers de Los Angeles. Alors, Shohei Ohtani.
C'était-tu revenu à Los Angeles, ça? C'était-tu à Los Angeles ou c'était là-bas?
Oui, non, c'était à Los Angeles.
C'était à Los Angeles, OK.
Shohei Ohtani nous a dit qu'il n'avait jamais parié ni sur le baseball ni sur d'autres sports.
Ah,
alors,
ben.
Normalement, une fois que tu as dit ça, si c'est vrai, puis t'es sincère dans ce que tu dis, tu laisses ça aller, puis les gens s'arrangeront avec ça. Mais Shohei Ohtani s'est engagé hier, une firme de relations publiques. Si t'as rien fait, d'après moi, t'embauches pas de firme de relations publiques. Ça, c'est mon idée à moi.
Et cette firme, de Sainte-Pétronille.
Ah, tu parles de bien des dossiers.
Non, mais c'est vrai, c'est un peu la même chose, là. Tu sais que la mairie, c'est Sainte-Pétronée que la ville a pris à cause de... C'est ça?
La DG, oui, oui.
La ville a pris une firme de communication. Puis j'ai pensé la même affaire, donc tes explications sont justes.
La firme de relations publiques en question, elle a déjà représenté Harvey Weinstein, Hillary Clinton et Alec Baldwin. Mmh, ça, c'est des dossiers qui sont devenus complexes à cause de différentes allégations. Puis c'est pas moi, c'est toi, puis c'est ci, puis c'est ça. Alors, Shohei Ohtani a rien fait, mais il a embauché une firme de relations publiques.
Ben oui.
Wow. À suivre.
Hey, moi, ce que j'ai aimé dans son point de presse, c'est que Shohei Ohtani a dit ceci. Il dit, je n'ai jamais parié sur aucun sport. Puis là, il y a un journaliste qui a dit, il dit, gâche-tu.
Mais son image était parfaite, hein, Shohei Ohtani, ouais. avant cet épisode-là.
Fait que ça.
Là, ben, moi, je crois pas. Toi, tu le crois pas du tout. Et je suis pas convaincu, encore moins avec cette nouvelle-là d'hier qui s'embauche une firme de relations publiques. À suivre, moi, je pense que justement, ça va le suivre. Ça va le suivre pour un bon bout de temps.
Si toi, ici à Québec, t'as des doutes, j'imagine qu'à Los Angeles, il doit y avoir certains journalistes qui ont également des doutes.
Plus que ça, le baseball a des doutes. Je suis certain que le baseball a des doutes. Mais le baseball n'a pas intérêt à suspendre Shohei Ohtani.
Non, mais il devrait peut-être enquêter.
Ouais, mais eux autres, ils laissent aller ça, puis ils espèrent que ça va disparaître dans la brume. Là. Ça prendrait un autre scandale à quelque part là, pour les aider. Là. Mais une chose que ça m'a fait rire terrible sur Facebook, il y a un paquet de niaiseries, là, mais il y a entre autres une photo de Pete Rose avec un petit, une petite bulle là, que Pete Rose qui dit, ben, attends, je le savais que j'aurais dû m'embaucher un interprète. Donc, Pete Rose a été suspendu pour avoir parié sur le baseball majeur.
Suspendu puis banni.
Banni, dans même le sens pas au temps de la renommée.
C'est sûr.
Donc, alors... lui, il n'y a pas d'interprète à tirer en dessous de l'autobus, alors voilà.
Ah, c'est très, très drôle.
À suivre.
Merci, Ray. Karen, ta nouvelle du jour?
Moi, c'est loin d'être drôle. C'est ce qui s'est passé dans les Laurentides où est-ce qu'une femme de 70 ans aurait été tuée par son conjoint. Ça s'est passé à Lac Supérieur. Donc, une femme de 70 ans, l'homme de 67 ans. Et puis, elle aurait demandé le divorce. Ils habitaient là, dans la même maison, mais elle au sous-sol, lui à l'étage supérieur. Et c'est la sœur de cette dame-là qui a fait la macabre découverte, parce que quand elle s'est réveillée, elle était voisine, puis elle dit, voyons, c'est bizarre que ma sœur soit pas partie au travail, donc va voir dans la maison, voit le conjoint qui est dans son lit, qui est sans vie. Elle sort de la maison, elle retourne voir, finalement, trouve sa sœur au sous-sol complètement ensanglantée, appelle les secours.
Je pensais qu'il était couché côte à côte.
Non. Okay. Et puis,
parce que lui, l'homme vivait au sol depuis un sacré bout de temps. Là. T'sais, il allait se séparer. Là. Fait que elle dormait en haut et lui en bas. Mais sa sœur, quand elle rentre, elle dit hein, c'est lui qui est couché en haut. OK, elle voit pas sa sœur tout de suite, c'est elle va en bas après.
Mais tu sais, moi je trouve que c'est juste complètement épouvantable. Et après ça, ben il y a de la famille là qui parle en disant ben elle pouvait recevoir personne chez elle. Elle était un peu en prison et c'est ça, ça vient encore me chercher à quel point il y a une vulnérabilité. Puis, tu sais, lui avait des armes et ce que sa sœur dit en témoignage aujourd'hui dans les médias, c'est, je l'avais dit, sors les armes de là ou viens rester chez nous. Puis elle dit, si il voit que le cadenas des armes est cassé ou est ouvert, ben il va paniquer, tu sais, il va faire une crise, etc. Donc clairement, un homme qui n'acceptait pas la situation, du moins c'est ce qu'on peut déduire là des témoignages aujourd'hui, mais je trouve ça extrêmement triste.
Mmh. Oui, c'est épouvantable. Encore là, tu sais, quand j'entends sa sœur dire, ben, j'y avais dit de venir rester ici, ça aurait été le temps peut-être d'appeler la police ou de faire, tu sais, il y a une crise dans cette maison-là, à tout le moins pour retirer les armes à feu. Si on retire les armes à feu, peut-être qu'on évite la situation qu'on a découvert hier, là, tu sais, je ne sais pas. Tu sais, les parents de Kim Lebel, ici à Québec, ils l'ont fait. Ils ont tenté d'aviser la police, puis bon, là, c'est tombé dans une faille, mais il y a moyen d'agir des fois et de... Tu sais, mais il y a du monde qui sont pris dans la misère puis qui sont pas capables de s'en sortir.
Mais tu sais, Stéphane, là, quand quelqu'un t'appelle dans une certaine détresse et que tu te demandes est-ce que je dois agir? La première, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de devoir agir pour quelqu'un. Qui m'appelle, qui me dit, écoute, j'ai besoin d'aide, mais après ça, se ravise et dit, non, ça va être correct, je vais attendre à demain. Quand tu prends le téléphone puis que tu appelles la police pour qu'il y ait une intervention, là, moi, ce que je me disais, c'est j'espère que cette personne-là ne sera pas fâchée contre moi. Mmh. Je veux pas envenimer les choses. Et je suis certaine que je ne suis pas toute seule à avoir ces pensées-là qui peuvent retenir d'agir et de porter plainte.
Je comprends. Mais
moi, si me remercier si de l'avoir faite.
Si tu portes plainte, c'est anonyme quand même.
Oui.
Mais souvent, on va le savoir non, que ça vient de toi.
Oui.
C'est ça.
Tu comprends bien que...
Le courage de lever le téléphone. C'est probablement qu'après ça, tout s'enchaîne. Là. Mais le courage
c'est pas juste
de
le
faire.
Courage, c'est l'occasion. Il y a des femmes qui n'ont pas l'occasion.
Oui, puis c'est parce que ça doit être rare, les situations. Tu sais, imaginez, dans une petite communauté, j'ai vu la maison hier, puis, tu sais, ils sont éloignés du chemin un petit peu, puis tout le monde se connaît. Tu sais, justement, la famille, la femme vivent à côté, c'est des voisins. C'est, tu sais, en aucun temps, ils ont peut-être pu, malgré qu'ils savaient qu'il y avait des armes à feu, mais peut-être que ça les a effleuré l'esprit, mais pas plus que ça, en disant, ben il va finir par l'attirer. Tu sais, tuer quelqu'un, c'est une coche, là.
Mais là, on met l'accent sur la victime puis sur l'entourage, alors que le premier accent qu'il faut mettre, c'est pourquoi autant d'hommes pensent que leur conjointe leur appartient, puis qu'elle a plus de valeur, c'est plus avec eux autres. C'est compliqué, puis j'ai pas de réponse, mais c'est tout notre rapport à la séduction, faut voir. On est élevé comme faut pourchasser la proie, OK? Puis je vous parle traditionnellement, je vous parle de ma gang, j'espère que ça évolue de ce temps-ci. Mais la femme ou la personne qui nous intéresse est une proie, faut la séduire, puis elle, sa job, c'est de se laisser désirer un peu, puis... Mmh.
De se laisser courtiser.
Puis je me demande si, dès le départ, comme ça, on fuck pas le rapport entre l'homme et la femme parce qu'on la voit justement comme une proie puis lui comme un, excusez-moi le terme, comme un prédateur parce qu'un prédateur, ça pourchasse une proie. Puis ça donne, tu sais, c'est pas les femmes qui tuent leur conjoint, c'est les gars qui tuent leur conjoint.
C'est sens unique. C'est un sens unique. C'est toujours comme ça.
Il y a des femmes qui vont faire chier leur conjoint de toutes sortes de façons.
Oui, puis il peut y aller.
Mais ils prennent pas le gun, puis ils tirent pas leur ex.
C'est ça. Fait que, est-ce qu'il y avait déjà eu une plainte de violence conjugale entre ce couple-là? Non.
Moi, je n'ai pas l'information.
Ils étaient en instance de séparation, oui. Mais... OK. Oui, Nicolo, ta nouvelle?
Je veux revenir quelques secondes, parce que tu nous as parlé hier de la facture.
Oui.
Et du monsieur qui s'est fait voler sa montre.
Par un tour de magie, ouais. En déplaçant des enveloppes d'argent.
Laurent Mattel, qui s'appelle le monsieur. Et j'ai entendu un petit bout d'entrevue hier de François Sanche, l'animateur de La Facture, avec Patrick Lagacé au 98.5.
OK.
Et Patrick Lagacé lui dit, avez-vous regardé le Twitter de ce gars-là? Il dit non.
Le gars qui se fait frauder.
Oui, le monsieur Mattel.
Monsieur Mattel, Laurent Mattel.
Qui est le conjoint de Samuel Grenier, qui est un complotiste notoire. Mm-hmm. Et lui aussi, Mattel, est un complotiste moins notoire. Mais c'est sur leur Twitter puis leur Facebook, tout ça, c'est les médias traditionnels, c'est de la merde d'arrêter de les lire puis de les regarder, tout ça, mais il s'adresse à La Facture pour régler son problème de montre. Ça, c'est une chose. Ce qui m'interpelle le plus là-dedans, c'est comment ça se fait que La Facture, c'est pas ça. Je pense, moi...
Mais je vois pas quelle est la... C'est que ça change. Là, tu me le dis là.
Moi, je m'attends...
Mais moi, le stratagème du vol m'intéresse.
Ben, c'est l'autre question que je me pose. Mais avant de savoir si quelqu'un est vraiment une victime de quelque chose, il me semble que t'enquêtes un peu sur la... Moi, je m'attends à ça de l'équipe de La Facture, qui fasse le tour des gens qui les contactent.
Pis, mais ils ont contacté la police.
Ils ont 600 000 recherchistes, là.
Ouais, oui, mais ils ont contacté la police. Ils ont contacté Promutuel. Ils ont,
Il y a un cas pareil, même si le gars.
Hein? Ouais, mais tu commences par le gars qui fait la plainte, non?
Oui.
Enquêter un peu sur quel genre de personne c'est.
Mais est-ce que tu mets en doute qu'il s'est fait voler sa montre?
Ça pourrait aller jusque-là.
OK. Mais hier, oublie pas qu'il fournit des images vidéo de l'individu qui arrive chez eux, là.
Oui.
Tu sais, puis on le voit la sacoche noire également.
Oui.
Fait que. Et il y a d'autres gens qui corroborent qui se sont fait faire la même affaire. Je comprends que toi, sa crédibilité de cet homme-là, tu la mets en doute parce que il mettait lui en doute toutes sortes de choses.
Alors je mets en doute deux crédibilités. Celle des recherchistes de Radio-Canada. puis lui, je sais pas, ça se peut que tu sois complotiste puis tu te fasses fourrer pareil, là, tu sais, comprends-tu?
Bah oui.
Mais
c'est un peu plus drôle, je trouve.
Qu'il ait même pas regardé le Twitter du monsieur, je trouve ça spécial.
Puis se faire avoir par un tour de magie.
Puis se faire avoir par un tour de magie.
C'est bizarre.
Est-ce que ah ça ouais, toi non plus, que... tu comprends ah, non, ça?
Je trouve ça bizarre. C'est pas un spectacle de magicien m'a allé à la salle d'Albert Rousseau, mais la facture, je suis pas sûr.
Oui, mais tu sais, des fois, là, ça peut-tu arriver qu'on doute de quelque chose? On m'a donné un exemple. Te souviens-tu, je suis allé au football de la NFL en novembre passé à Miami. OK? Je suis allé voir les Dolphins, je me souviens pas qui. Là. Puis, ils prennent plus d'argent dans le stade de football. Puis, je sais pas si tu te souviens, je te l'avais raconté. Il y a un gars qui vient me voir, des allures un peu bizarres. Il me dit, j'ai pas de carte de crédit. Puis, il me donne un 100$, mais là, flambant en eux, là. Tu sais, il me donne un 100 US. Puis, il me dit, commande-moi deux verres qui coûtent 20 quelques piastres chaque, fait que ça fait un peu moins que 50.
Toi, t'as pas la machine pour vérifier si 100 piastres est correct?
Là. Non, c'est ça. Puis je peux pas le vérifier là. Ils prennent pas de cash. Fait qu'il me dit, puis tu garderas le reste. Calvose, il me donne un type de 50 piastres. Faut que t'aies soif, là. Tu sais, je le sais, c'est quoi avoir soif.
Ouais, mais t'aurais lui, jamais fait ça, toi?
Yes. Non. Non, non. On a, y a un spectacle. Puis j'en ai toujours voulu à Nation qui produit des shows. Live Nation qui produit ouais. des spectacles. Je m'étais chicané avec le directeur Live Nation de la section de Boston. Assez solide. À un show de gars qui se déshabille tout le temps, Kid Rock. Fait que il voulait pas nous donner de. Il voulait pas nous vendre de boisson.
Okay.
J'avais 40 ans.
Puis on n'avait pas de passeport.
J'avais mon passeport.
Okay.
Mais il était pas étampé. Non, on a traversé les lignes. J'ai dit, expliquez au gars. On a traversé les lignes en auto, il étampe pas. C'est en avion qu'il étampe. Non, il étampe pareil. J'ai dit, hey, t'as pas traversé les lignes souvent en char, toi, là, hein? Alors, je te dis, il a jamais voulu. Il a jamais voulu. Puis j'avais tout, j'avais mes cartes et mon passeport. Puis il a jamais voulu.
Un méchant zélé.
Puis là, à ce moment-là, il y avait du monde gentil à côté de nous. Puis on lui a donné de l'argent pour qu'il. Mais on a pris un verre, là, on était tellement maganés de la veille. Fait que,
mais tu sais, toute cette histoire-là est bizarre. On la trouvait bizarre hier, mais là, ça, mais je trouve que ça flash un autre spotlight, excusez-moi pour des anglicismes, sur la bizarrerie de l'histoire.
Tu veux, mais moi, j'aurais été vérifier son Facebook, mais son Twitter, j'aurais pas pensé.
Okay. Je vous annonce que je regarde pas le Twitter de tous nos invités, là.
Non, hein, des fois, on va pas fouiller ça tout le temps.
Non, mais t'es pas Radio-Canada non plus.
Ah, merci, j'ai appris ça.
T'es tout seul.
Mais avant de publier, disons que Radio-Can l'ont vu puis qu'ils le savaient avant de publier, est-ce qu'il aurait dû publier quand même ou il aurait pas dû publier à ton avis?
Ben, moi, je suis favorable à qu'il ait publié parce que moi, je crois que ce genre de fraude-là existe pour vrai. Puis comment il s'appelle, Langevin, le magicien?
Luc
Langevin. Il a participé à l'émission, il l'a démontré. Puis il connaissait le truc. Bon, fait que, mais...
Moi, je pense que ça demande... Tu vas voir ça au départ, puis tu prends juste ça en considération dans le reste de ton enquête après. Ouais, ça veut pas dire que tu publies pas tout ça, mais c'est une information qui est majeure, je trouve.
Je comprends. Fait que,
voilà.
Assez parti.
L'autre petite nouvelle, tiens, si on a le temps, plusieurs commissions scolaires de l'Ontario dépose une poursuite de 4,5 milliards de dollars qu'on apprend ce matin contre TikTok, Meta et Snapchat.
TikTok.
Mm-hmm. Je sais pas pourquoi ils vont là, mais...
Parce que ils disent que ça nuit à la santé mentale des enfants, ouais. Ça nuit à leur apprentissage et plein d'autres affaires.
Je comprends, mais ça va être difficile à démontrer.
Ça va être impossible à démontrer.
C'est ça, impossible à démontrer. Fait que je sais pas pourquoi ils vont là. Je trouve que c'est des fois une mauvaise façon peut-être de s'en prendre. C'est, tu sais, la façon de protéger nos enfants contre les médias sociaux, ce serait l'éducation. Puis c'est empêcher les enfants d'aller sur TikTok. Parce que TikTok, là... Mmh. D'après moi, ça commence à 10 ans.
Les téléphones en classe, on s'entend que c'est un problème.
Mais je pense qu'ils n'ont pas le droit, là. Tu peux pas utiliser ton cellulaire en classe. Je me demande, même aux écoles secondaires, c'est peut-être pas partout pareil, mais moi, là, à laquelle on a affaire, là, je pense que les cellulaires doivent rester dans le casier. Donc, ils peuvent l'utiliser sur l'heure du midi, peut-être entre les cours.
Si les profs l'autorisent aussi dans le cours, mais effectivement, je pense que la loi, elle est passée, là, pour interdire les cellulaires.
Ouais, c'est ça. En classe, ils n'ont pas leur cellulaire.
Il faut.
Mais c'est vraiment en dehors. Ouais, mais c'est en dehors. Si tu voyais comment, de 10 ans à j'allais dire, je pense que ça arrête à un moment donné, mais de 10 ans, où t'es en plein apprentissage, puis en développement intellectuel, mental, social et tout ça, puis tu passes des heures à regarder des vidéos TikTok, des heures.
L'éducation.
Ouais, mais si t'es le parent, là. Oui, je l'ai été parent.
Nous revions parents.
Puis j'ai toffé un maudit bout, là, puis de limiter l'utilisation des cellulaires, moi, de pas les emmener dans leur chambre pour être certain que la nuit, maudit réflexe d'ouvrir ça la nuit. Puis moi, je le fais encore, moi, je dors pas avec mon cellulaire. Fait que, mais j'ai étoffé longtemps, moi, les gars, puis je sais que ça les dérangeait. Je disais, il y a une table à téléphone ici, les fils sont là, tout est là pour charger le téléphone. Fait que quand tu vas te coucher, tu mets ça là. Ouais, mais je vais me réveiller quand même. T'as un cadran dans ta chambre. Va te l'installer. Si t'es pas capable, va te l'ajuster.
C'est parce que, tu sais, je pense à mon chum, Jérôme, qui fait confiance au bon sens des parents, puis au bon sens des enfants. Puis c'est bien, je veux dire, ça prend une part de confiance. Mais il faut aussi réaliser on fait face à des machines qui, toute leur programmation est faite pour qu'on reste accroché.
Oui.
Puis nous autres même, on a de la misère en tant que personne de 40, 50 ans à résister. Imagine un enfant.
Je ne regarde jamais des TikTok 5 minutes. Si je commence, c'est une heure. J'exagère pas, là.
Pis c'est à quoi, 10, 15, 30 secondes de la shot?
C'est pas très, très long,
une
là. C'est
max,
pas très, très long. Hein?
C'est quoi, c'est une minute?
Non, mais il y en a de plus en plus. J'écoute beaucoup de segments de spectacles d'humour. C'est comme ça, c'est le Simon Gouache à sous-écoute.
Bonjour, Pierre Michaud.
Pierre Michaud.
Bienvenue à la facture. On a un reportage spécial pour vous aujourd'hui.
Ah, c'est le gars des Rolex, justement. Il m'écoute pas mon téléphone, hein?
C'est le fun?
Mon troisième TikTok, c'est la facture.
Mais il y a la Floride qui veut actuellement limiter les réseaux sociaux chez les enfants à partir de quoi? 13, 14 ans?
14 ans.
Donc, tu ne peux pas être sur les réseaux sociaux à moins que tes parents...
Oui, mais c'est déjà ça. Tu sais, je veux dire, pour avoir un compte Facebook, mais ils changent l'année de naissance, on l'a tout fait pour nos enfants. Puis, bon, mais Nicolas a touché un bon point. Même nous autres, on reste accro un peu, faut se parler. Et moi, la solution que j'ai trouvée, puis des fois, d'autres me trouvaient débile, mais voyons, encore aujourd'hui, je trouve ça cool que les gars fassent du sport et en fassent autant, même si ça vient complexifier l'horaire familial. À l'époque, ils jouaient au baseball, ils jouaient au hockey, en sport-études, c'était le moyen de fermer le cellulaire. Puis ça peut être la musique dans d'autres cas, ça peut être le théâtre, ça peut être l'impro, mais c'est ces activités-là, parce que quand t'as du temps libre, c'est quoi la facilité?
Faut que tu l'occupes, c'est ça.
C'est ça. Oh, check. Très bon truc.
Ah, c'est moins drôle, mais c'est intéressant pareil.
Là, des affaires de même du monde qui plantent, ça, j'aime bien ça. Ça me fait mal aux gosses, mais c'est du monde... Regarde, la grosse... La fille a planté. Fait que...
C'est une grosse galerie, puis elle est tombée en bas.
En bas de la galerie, il l'a vu, lui. OK. Moi, ma nouvelle, petit sourire.
Ouais, on aime ça, sourire.
Le ministère de Fitzgibbon a préféré Amazon au panier bleu pour 70 transactions, 12 000 $. Comment ça fait, ça? 70
transactions, tu veux dire?
Ouais, à peu près. Il a dû y en avoir des grosses, mais on peut acheter au Québec. Il n'avait pas.
C'était 170 par transaction. 170. T'as eu du devoir ce matin?
Je sais pas. Ouais. J'ai ça dans mes nouvelles, mais c'est quand même. Tu sais, c'est banal, 12 000 dans les milliards ou les millions.
Mais c'est le principe.
Mais c'est le principe, tu sais, de savoir. Mais j'aurais aimé savoir. Je sais pas si on explique qu'est-ce qu'il a acheté avec ça.
Ouais, c'est ça. Parce
mais
que
je trouve ça très drôle. En fait, mais c'est rien qu'un ministère en passant.
Ils ont le droit d'acheter sur Amazon. Ce qui est insultant, c'est quand on lance le panier bleu puis qu'on essaye de nous faire croire que c'est la meilleure invention depuis le pain tranché, alors que tout le monde regarde le projet puis voit très bien.
Ça c'était fou, ça c'est vrai. Ben je comprendrais.
Ils ont insisté 2-3 fois pour nous dire que c'était l'invention du siècle.
Bon, alors voilà, on s'arrête là-dessus et la nouvelle du jour, je l'ai reçue par texto en photo à l'instant. Regarde, c'est ça.
Oh!
Ma moto a été livrée ce matin.
Wow!
J'ai changé de char hier, puis changé de bicycle aujourd'hui. Fait que c'était une grosse semaine.
Attends.
On vient.
Du bon le matin.
As-tu deux minutes?
Un automobiliste qui a été arrêté hier à Sillery, sa voiture s'est retrouvée sur le côté. Lui, on l'a retrouvé, les facultés affaiblies, donc on l'a arrêté. Ça s'est passé pas très loin du centre de la falaise, vers 17h20, donc en fin de journée, là, au même moment où notre attention était dirigée pas mal ailleurs, on s'entend. Le conducteur a réussi à sortir de sa voiture par ses propres moyens. Il n'a pas été blessé. Personne d'autre n'a été blessé, même si la voiture a été retrouvée sur le côté.
Et mais lui, il a fait un embardé toute seule avec les facultés affaiblies.
La voiture, elle est de travers sur le côté, dans le milieu de la rue. Une rue de quartier résidentiel.
OK.
C'est spectaculaire. Je n'ai pas vu ça souvent, des voitures renversées comme ça dans un quartier résidentiel en plus. Okay. Et le gouvernement du Québec qui ferme la porte aux stages rémunérés dans le domaine public, c'est une demande qui est faite de façon assez importante par des étudiants actuellement, mais ça revient périodiquement dans l'actualité. Là, le gouvernement a dit on a fait un choix.
Et la pétition pour le Festival d'été de Québec, c'est quoi exactement?
C'est pour qu'il y ait, je pense que c'est les solidaires qui chapeautent ça, c'est pour qu'il y ait une priorité aux gens de la région de Québec dans un certain pourcentage pour le Festival d'été de Québec, l'acquisition des passes.
OK. Mais, je veux dire, il n'y a pas bien de monde dans le Maine qui se sont achetés des passes, là, je comprends pas.
C'est plus Montréal, les autres régions, alors
les revendeurs.
Oui, mais les revendeurs, eux, je veux dire, ils vont se passer par des adresses de Québec aussi.
Oui, mais là, tu veux qu'on fasse...
Oui, c'est ça.
Non, mais si t'es crosseur et demi, là, c'est sûr que ça va être dur de te prendre. Là,
mais moi, je veux bien, mais Sylvain Bouchard a amené, puis Ray, tu vois, je pense être d'accord avec ça, a amené plein de solutions. Moi, la première affaire, c'est que le Festival d'été de Québec semble pas reconsidérer la méthode qu'ils ont en place. Et Sylvain Bouchard a donné l'exemple d'un festival à Londres, ou en banlieue de Londres, là, il a nommé les bandes Dua Lipa, justement, Rodrigo, elle va être là, Coldplay.
Glastonbury.
Ouais, Glastonbury, c'est comme le Masters. C'est un tirage. C'est un tirage au sort, puis qui recommence à chaque année. Fait qu'il n'y a pas de droit acquis. Ça aussi, c'est très difficilement explicable. Donc, tu t'inscris, tu as une période. Fait que
mais dans le cas de la vente à tout le monde, il n'y a pas de droit acquis.
Non, mais les tables spéciales, puis toutes
les tables, puis les zones argent et or sont des droits acquis, mais qui sont au nom de monde qui sont morts, des fois. Tu comprends, ça continue de cette façon-là.
Mais faut pas oublier que quand le festival allait moins bien, ces gens-là étaient là.
Oui. Oui, mais beaucoup ont embarqué quand ça s'est mis à bien aller.
Oui, sûrement.
C'était beaucoup plus petit.
C'est dangereux, ça.
Mais tu travailles au sort comme au Master, t'aimes pas ça?
Ben oui, mais... Le danger, c'est que les gens disent « OK, tu veux pas m'avoir, moi, m'aller faire d'autres choses avec mon argent. »
Non, je sais bien, mais c'est parce qu'il va y avoir assez de monde.
Une fidélité de clientèle, là, c'est majeur, ça. Là. C'est important. Là.
Mais c'est parce que, justement, c'est des clients fidèles depuis le début qui se plaignent, là, qui disent que cette année, on n'a pas eu de billets parce qu'il y avait des gens qui, informatiquement mieux installés, ont eu une priorité.
C'est
ça qu'il faut arrêter.
Certain.
C'est pour ça que toi et moi, on n'aura pas. Parce qu'on n'a pas le système informatique assez quick pour en avoir. OK. Au sport.
Ben oui. Le Canadien reçoit les Flyers de Philadelphie ce soir. Retour à domicile pour le Canadien. Après une séquence de 5 matchs sur la route, pour le Canadien, c'est au Centre Bell. Donc, 18h30 pour l'émission d'avant-match le long du réseau Cogeco. D'autres très bons matchs ce soir dans la Ligue nationale de hockey. Les Islanders sont à Sunrise en Floride. Les Rangers au Colorado. Vegas contre les Jets à Winnipeg également. André Tourigny sera l'entraîneur.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.